on s'en va rejoindre Élodie Largenton pour la revue de l'actualité du Pacifique francophone. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonjour à tous.
Pour commencer ce tour d'horizon, direction la Nouvelle-Calédonie où la dengue fait une sixième victime.
Oui, un homme de 39 ans est décédé après avoir contracté le virus de la dengue de type 1. Il habitait dans la commune de Poya. C'est la sixième personne à mourir des suites de la dengue en Calédonie depuis le début de l'année. Trois femmes âgées de 25, 30 et 40 ans et deux personnes âgées sont mortes en l'espace de 2 mois. Le virus touche donc tous les âges et pratiquement tout le territoire calédonien. Il risque même de se propager dans la région. Un premier cas de dengue a été officiellement déclaré à Futuna et 3 cas ont été identifiés à Wallis, rapporte la chaîne Wallis et Futuna Première. Tous les malades ont été infectés par le virus en Nouvelle-Calédonie. L'une des mesures prises pour éviter toute épidémie dans l'archipel, c'est donc l'installation de caméras thermiques à l'aéroport. Ça permet de repérer plus facilement les passagers qui arriveraient à Wallis et Futuna avec de la fièvre. Les autorités sanitaires pourraient alors les orienter immédiatement vers les services de santé. Rappelons que la dengue est une maladie transmise par les moustiques. On reste en Nouvelle-Calédonie, on scrute toujours les cours du nickel sur le marché international. Et cette semaine, les nouvelles sont plutôt bonnes avec un léger rebond. La tonne de métal gris atteint de nouveau les 10 000 dollars à Londres. L'économie calédonienne dépend beaucoup des revenus du nickel et les aléas du marché ont donc des impacts importants dans l'archipel. Autre sujet que l'on suit régulièrement, la lutte contre la pêche illégale. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière en disant que la Nouvelle-Calédonie coopérait avec l'Australie. Le territoire français travaille avec les autres pays de la région. La preuve, 3 blue boats ont été interceptés dans les eaux des îles Salomon grâce aux forces armées de la Nouvelle-Calédonie. La présence de ces bateaux vietnamiens qui viennent notamment pêcher illégalement des holothuries, des concombres de mer, avait été signalée à l'agence des pêches du Forum des îles du Pacifique qui a lancé un appel à l'aide. Et ce sont donc les Calédoniens qui y ont répondu. 2 vols de surveillance maritime ont été effectués. C'est ensuite le patrouilleur des îles Salomon qui s'est rendu sur zone pour dérouter les 3 blue boats. Un 4e bateau n'a pas pu être intercepté. Dans l'actualité calédonienne également, le grand chef Robert Moyatea, décédé la semaine dernière à l'âge de 81 ans, a été inhumé en début de semaine chez lui à Saint-Louis. Grand chef du Mont d'Or, Robert Moyatea était un ancien compagnon de Jacques Lafleur. Il avait été élu du RPCR à la province sud et au Congrès dans les années 90 et 2000. Le nom Moyatea veut dire « il n'y en a pas au-dessus ». Une centaine de personnes étaient présentes à son enterrement, dont plusieurs responsables politiques et coutumiers.
La consommation de cette drogue surnommée ice, on en parle souvent en Australie. Eh bien, le problème touche aussi la Polynésie française. Un important trafic de méthamphétamine entre Tahiti et les États-Unis vient d'être démantelé.
Et c'est une femme d'affaires qui serait à la tête de ce trafic, une directrice d'agence événementielle. Une 50aine de grammes d'ice ont été retrouvés à son domicile, mais l'affaire pourrait porter sur des volumes plus importants. Elle a été placée en garde à vue avec son compagnon. Un 3e suspect a été interpellé à son retour des États-Unis. Les 3 personnes sont restées en garde à vue pendant plusieurs jours avant d'être mises en examen. La semaine a aussi été marquée en Polynésie française par le décès de Bruno Barrio, militant engagé contre les essais nucléaires et pour la reconnaissance du préjudice des travailleurs et victimes des essais. Il était aussi chercheur, avait été journaliste et homme d'église. Il est surtout connu donc pour avoir dénoncé et mis au jour les conséquences néfastes du nucléaire sur la santé et sur l'environnement. Son combat doit continuer, demandent ses proches, notamment Roland Oldham, le président de Mororoa et Tato, association anti-nucléaire. Depuis quelques mois, Bruno Barrio travaillait avec d'autres personnes sur un film consacré au volet social du nucléaire. Ce film devrait sortir dans quelques mois. Le militant anti-nucléaire travaillait aussi l'organisation d'une exposition qui concerne notamment les documents secrets militaires. Et là aussi, cette exposition devrait voir le jour malgré tout. Un mot de politique justice. Gaston Floss échappe à l'inéligibilité dans l'affaire de la vaisselle. La cour d'appel a confirmé la condamnation de l'ancien président de la Polynésie française à une simple amende de 2 millions de francs CFP, soit environ 24 000 dollars. Le leader du Taoïra échappe donc à la peine d'inéligibilité demandée par le parquet. Le parquet qui avait fait appel en raison justement de la relative légèreté de la peine au regard de ses réquisitions. Gaston Floss reste malgré tout inéligible jusqu'en juillet juillet 2019 puisqu'il a été condamné dans d'autres affaires. La politique, c'est aussi la présidentielle qu'on continue de suivre évidemment en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française. Et on a appris que l'un des candidats à l'élection, François Asselineau, possède deux appartements à Tahiti. Un appartement de 72 mètres carrés et un autre de 55 mètres carrés. Des biens estimés au total à 33 millions de francs, environ 390 000 dollars. On l'a appris grâce aux déclarations de patrimoine des candidats, puisque pour la première fois, ils ont dû se plier à un exercice de transparence. Pour info, François Asselineau est candidat de l'Union populaire républicaine, un parti souverainiste et europhobe.
On continue à parler politique, mais à Wallis et Futuna, où des élections territoriales viennent d'avoir lieu.
Et d'après la première, ni la droite ni la gauche ne semblent assez fortes pour constituer à elles seules une majorité solide au sein de l'Assemblée territoriale. Ce sont donc les centristes et les non-inscrits qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. À noter aussi que plusieurs figures historiques ont chuté, de nouveaux visages se sont imposés. Près de la moitié des conseillers sont des nouveaux élus. Et sur les 20 sièges que compte l'Assemblée, 6 vont être occupés par des femmes. C'est un peu mieux qu'en 2012 où elles n'étaient que 4. Le président de l'Assemblée ainsi que le nouveau bureau doivent être élus mardi prochain. L'actu en bref, il y aura bientôt une agrégation de Tahitiens. C'est en tout cas le souhait du gouvernement français qui vient de décider de créer une agrégation des langues de France. Mais il va falloir patienter un peu, il n'y aura pas de concours chaque année. Et en 2018 et 2019, priorité sera donnée au breton, au corse, à l'occitan ou encore au basque et au catalan. L'agrégation de Tahitiens pourrait donc devenir réalité en 2020. Mais pour cela, il faut se mobiliser. Souligne Bruno Sora, universitaire et président du jury CAPES Tahitien, interrogé par la chaîne locale TNTV. C'est au territoire et au comité du CAPES de demander à ce que le Tahitien soit inscrit rapidement comme option. En tout cas, cette annonce de l'ouverture prochaine d'une agrégation de Tahitiens est une reconnaissance symbolique forte, estime Bruno Sora. Et puis une femme directrice technique d'une équipe de foot en Nouvelle-Calédonie, Coralie Bretaignier, est la première femme d'Océanie titulaire d'une licence A, nous dit NC Première. Ce diplôme lui permet de diriger des joueurs ou des joueuses jusqu'en division d'honneur et elle a déjà trouver un emploi. Elle est la nouvelle directrice technique du club de Tigasport.
Merci beaucoup Elodie, à samedi prochain.
Merci, à la semaine prochaine.